Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site de Radio Alpa, radioalpa.com. On aurait pu vous parler de tambouille politicienne, celle-là même qui fait de Christophe Béchu, maire d'Angers, le ministre de la Transition écologique. Oui, c'est de la tambouille politicienne qui oblige à placer des membres importants du parti d'Édouard Philippe, Horizon au pluriel, à des postes ministériel clé. Christophe Béchu est ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il est libéral et pro-nucléaire. Le poste qu'il occupe montre totalement la vision technicienne du problème environnemental. On va trouver des solutions techniques pour résoudre des problèmes qui nous viennent de la technique. Le concept de transition écologique sous-tend que nous avons un problème, un seul. Produire toujours autant, mais en faisant moins de dégâts. Alors arrivent les bienfaits de l'innovation technologique qui va nous permettre de résoudre le problème et continuer comme avant. Christophe Béchu est tout à fait à sa place. Sans conscience écologique, il pourra annoncer sincèrement faire de la transition écologique quand des avions consommeront moins de carburant, quand les centrales nucléaires produiront moins de déchets. L'idée qu'il faut arrêter de produire pour produire, car la vie n'est pas synonyme d'accumulation de profits, ne l'effleure pas. Mais c'est pas grave, puisque là où il est, il aura pas besoin véritablement de nous parler de ça. En tout cas, ce n'est pas ce qui guide son action dans la commune d'Angers et dans l'agglo d'Angers. Aussi, il pourra réellement croire qu'il agit pour le bien de l'environnement si le bilan carbone de la production française augmente moins vite. Tant que l'option, qui est une option productiviste, tant que cette option, c'est-à-dire produire sans besoin, en comptant sur la publicité pour créer l'envie de l'acheteur et ainsi augmenter le PIB, sera celle de nos soi-disant représentants, une société écologiste ne pourra pas aboutir, car elle n'est pas compatible avec le productivisme. Les exigences d'une société respectueuse des équilibres entre l'activité humaine et l'existence du reste du vivant ne seront pas respectées tant que ce sera productiviste. Et notre environnement, se dégradera. Les nominations se multiplient. Au poste de ministre de ceci, ministre de cela, et notamment là, maintenant c'est plus l'environnement, c'est plus l'écologie, non, c'est la transition écologique. Mais les principes mis en œuvre par les détenteurs des portefeuilles ne réussissent jamais à infléchir les valeurs du libéralisme économique. Laissez faire, laissez passer. Et pendant la fin du monde, le business est toujours d'actualité. À lire sur le sujet de la transition écologique, la nouvelle expression à la mode, qui cherche avant tout à éviter de changer quoi que ce soit, on peut lire écologie sans transition. Transition, publié aux éditions Divergence, à l'initiative du collectif Désobéissance Écolo Paris, que vous pouvez trouver sur l'excellent site librairie-quilombo.org. Si vous ne trouvez pas ça localement, librairie-quilombo.org. On aurait pu vous parler de la peur qui commence à toucher les entrepreneurs. Dimanche 26 juin, les dirigeants d'Engie, d'EDF et de Total enjoignaient les populations à réduire leur consommation d'énergie, sans bien sûr s'attaquer au fondement de la société de consommation, mais en nous bourrant le mou avec la neutralité carbone. Dimanche 3 juillet, ce ne sont pas moins de 84, entrepreneurs, essentiellement de l'économie sociale et solidaire, dont je le rappelle, le but est le service rendu et non pas l'accumulation de profits, donc 84 dirigeants de ce genre d'entreprise qui s'inquiétaient de la fin du monde. Et le discours était autrement plus intéressant, je cite un extrait. Accepter de parfois faire moins pour toujours faire mieux, cela passe concrètement par l'intégration au cœur de la stratégie de démarche d'économie circulaire, d'économie d'usage, de relocalisation, de régénération de la biodiversité ou encore d'alignement des réductions carbone de l'entreprise avec l'accord de Paris. Mais nous pensons également qu'une stratégie de sobriété durable en entreprise passera obligatoirement par un partage de la valeur équitable et par une intégration du temps long au sein de l'entreprise et donc par des évolutions de gouvernance. La sobriété au cœur de l'action entrepreneuriale, l'abandon du court-termisme qui prévaut dans le monde de la finance et dans l'idéologie du libéralisme économique. Waouh, c'est un retournement de situation. Bon, je rappelle quand même que La plupart sont des adeptes de l'économie sociale et solidaire. Il n'empêche que ça implique de comprendre qu'après nous, ça ne peut pas être le déluge, car il existerait d'autres êtres vivants. Ah bon ? Ici et maintenant ? Non ! Bon, la première phrase extraite invite toujours à faire encore mieux. La compétition est toujours sous-jacente, mais c'est toujours ça de prix. Ce changement de nature de l'action économique a peu de chances d'effleurer les libéraux au pouvoir. Bruno Le Maire est à des années-lumière du concept de sobriété. Les dirigeants des syndicats patronaux ne se sont pas positionnés sur le sujet. Et le gouvernement doit présenter un projet de loi sur le pouvoir d'achat. On ferait mieux de nous redonner un petit pouvoir de faire plutôt qu'un pouvoir d'acheter. On est très loin du compte, hein. Mais la parole change. Seulement a-t-on le temps de laisser les riches devenir un peu moins voraces ? Rien n'est moins sûr. On aurait pu vous parler d'autonomie à reconquérir. Samedi 2 juillet à Toulouse, le pinkwashing en a pris un petit coup quand le stand de Airbus a été attaqué par des militants pour rappeler que Airbus fait aussi dans le militaire et le contrôle des populations en produisant des armes et des drones. C'est bien beau de faire un stand à la Gay Pride. Et peu importe où se situe cette Gay Pride, bon, bah, si votre activité consiste à faire des avions militaires et des drones, je sais pas trop si ça peut changer quoi que ce soit le simple fait de participer à une Gay Pride. Le 3 juillet, à Saint-Colomban, au sud de Nantes, 700 personnes sont venues dire qu'elles n'étaient pas d'accord avec l'extension d'une carrière de sable. Les forces de l'ordre protégeaient l'entreprise d'extraction, bah oui, elles sont payées pour ça, mais elles n'ont pas pu empêcher la destruction d'un barrage illégal posé sur une petite rivière du coin par un maraîcher industriel qui exporte loin. Loin, exporte du biome, loin, loin. Du 8 au 10 juillet, sur la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y aura ZAD en vie. Plus d'infos sur zad.nadir.org. Et si votre navigateur internet vous dit que c'est dangereux, eh ben c'est parce qu'il n'y a pas les bons certificats. Mais vous pouvez aller sur le site, vous ne choperez pas de conneries. Enfin, en tout cas, moi j'en ai pas chopé. Et on enchaîne, eh oui, on enchaîne, hein, puisque c'était du 8 au 10 juillet, c'est du 8 au 10 juillet, ZAD en vie. Eh bien on enchaîne du 17 juillet avec la fête des barricades à Luméville, près de Bure, c'est dans le nord-est de la France, là où des techniciens du nucléaire veulent enterrer des tonnes de déchets dangereux pour des centaines de milliers d'années. Plus d'infos sur burburbure.info, oui, trois fois bure, burburbure.info. Et au mois d'août, eh bien, le festival des burlesques, des infos sur burfestival.org, burfestivaltoutattaché.org. Décidément, il se passe plein de trucs cet été. Et par exemple, eh bien, il y a toujours l'allumette. Mais comme on dit, Outre-Rhin, aber, was ist das ?
Effectivement, on en avait déjà parlé. Donc, l'allumette, c'est ce qu'on voudrait être, un centre socio-culturel en autogestion. Et puis, le but, c'est que les gens, non seulement du coup participent, enfin bénéficient de cette solidarité, mais aussi à terme puissent s'investir dans le lieu et devenir acteurs aussi de leur acteurs de tout ça, quoi. Puisque l'idée, c'est ça, c'est l'autogestion, en fait. C'est que les gens prennent conscience qu'ils sont capables aussi de décider par eux-mêmes, de prendre des décisions politiques, de réfléchir, d'agir.
Pour l'instant, c'est gros chantier. Quels sont les besoins ?
Eh ben, les besoins, c'est surtout du monde, en fait. Après, en matériel, on a déjà un peu ce qu'il faut sur place. Si les gens veulent apporter 2-3 outils avec eux, je pense que ça posera pas de soucis. Mais en tout cas, on est déjà bien équipés, donc voilà. Et puis après, de toute façon, on peut venir pour une heure, pour filer un coup de main, juste pour discuter. On n'a pas besoin spécialement d'avoir des compétences particulières. Il y aura toujours quelqu'un sur place pour guider un peu, pour expliquer, pour accompagner.
Alors si vous voulez participer, eh bien même au mois de juillet, alors pour le mois d'août j'ai pas l'info, les mardis de 18 à 21h il y a du monde, les mercredis de 17 à 21h il y a du monde et les samedis de 10 à 13h et de 14 à 18h avec une petite pause d'une heure, c'est pas forcément à 13h pile et à 14h pile que vous reprenez, hein, mais une petite pause avec un repas partagé le midi, ils ont même du matériel, ils ont une planche. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, eh bien allez envoyer un un petit mail sur l'allumettelefeu@libremail.net. L'allumettelefeu@libremail.net. Et vous pouvez chercher également, ils ont un compte Instagram avec des jolies photos et un compte Facebook, l'allumettelefeu@libremail.net. On aurait pu vous parler des activités de plein air. Le week-end dernier, les personnels au sol des aéroports étaient en grève. Le mouvement continue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du 8 au 10 juillet et du 13 au 17. Les médias titrent sur les départs en vacances qui pourraient être compromis. Oh, mais pourquoi ces gens perdent des journées de salaire, prennent des risques en affrontant leur employeur, prennent également le risque d'être détestés par la population qui prend l'avion, parfois une fois par an pour des destinations de rêve dans des pays pauvres? Eh bien, il faut lire les articles. Il faut lire les articles, ouais, et aller très très loin parfois pour connaître les revendications. C'est quand même pas normal que le simple fait que des gens fassent grève, ça soit... mais alors comment les gens vont partir en vacances? Là même pour la SNCF, dont les personnels ont fait grève cette semaine, le nombre d'otages est en forte augmentation en France. Oui, 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 vous entendrez. On nous prend en otage, vous entendrez même des journalistes le dire. C'est le moment d'acheter, dirait un trader consciencieux. Acheter de l'otage, parce que quand les grèves s'arrêteront, la rareté de l'otage fera grimper les prix. Les 4 et 5 juillet, grève à l'hôpital Purpan à Toulouse, du 4 au 7, c'est à l'hôpital de Maubeuge. En grève illimitée à Montpellier depuis le 4 juillet pour les urgentistes, idem pour ceux d'Aurillac depuis le 2 juillet. La santé devrait être une priorité de la société. Seulement cette société, organisée par l'État, se dote de soi-disant représentants dont les valeurs fleurent bon l'accumulation maximum de profits. Alors la santé de la population, faut pas qu'elle coûte trop cher. Faut qu'elle coûte assez peu cher d'ailleurs pour faire encore des baisses d'impôts sous couvert de donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres. Alors que finalement, ce sont les plus riches qui augmenteront substantiellement leurs revenus en payant moins d'impôts. Oui, puisque les plus pauvres n'en paient pas. Ce système économique est capable de laisser mourir à petit feu des petits vieux et des petites vieilles. On se tasse avec l'âge, dans des EHPAD. Pour augmenter quoi? Les marges, toujours pareil, et mieux rémunérer les actionnaires. Donc une fois que ce genre de fait est intégré dans la réflexion, il est beaucoup plus difficile de comprendre le reste des actions. De comprendre le reste des actions, comme par exemple rendre l'hôpital public inefficient à force d'économies. D'aucuns diront encore que non, quand même, nos représentants ne peuvent pas faire ça. L'humanité, l'empathie, etc. De fait, non seulement ils peuvent le faire, mais c'est en train. Sinon, on aurait pu vous donner des nouvelles de la fin du monde, mais à chaque fois, ça finit par me déprimer. Vous en avez en direct en ouvrant votre fenêtre? Oui, c'est un petit peu sec, oui, il fait un petit peu trop chaud, oui. Et il y a des gens qui meurent, de quoi? De canicule. Mais du coup, on a préféré vous parler d'État. Nous avons vu la dernière fois qu'il était en capacité d'agir, cet État. Toutes les institutions sont en place, aussi représentatives que le permettent les élections, les jeux des chaises musicales politiciens qui ont présidé à la création d'un gouvernement et les enjeux de carrière qui servent à organiser l'appareil judiciaire. Autant vous dire que ça l'est peu, représentatif. L'État est au travail pour le plus grand bien de nous tous. Mais oui, on est en démocratie. Seulement l'État, fondement de la société, nécessaire pour empêcher la loi du plus fort et la guerre perpétuelle des humains entre eux, selon des philosophes comme Hobbes ou Locke, c'est résumé à gros. L'État, disais-je, peut aussi devenir un loup pour l'homme, et de fait apparaître comme un contresens. Alors finalement, l'État, garant de la société, pourrait être contre la société. Un certain Max Weber, sociologue né en 1864 et mort en 1920, qui analysa l'éthique du capitalisme, et notamment l'emprise du protestantisme sur le modèle économique, qu'on appelle le capitalisme, il s'intéressa aussi aux motivations des parties prenantes de l'organisation de l'État. En 1919, il donna une conférence intitulée « La vocation de politique », où il décrit les politiciens et le fonctionnement de l'action politique. Il donne également une définition de l'État. Je cite... Comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé historiquement, l'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime, c'est-à-dire sur la violence qui est considérée comme légitime. L'État ne peut donc exister qu'à la condition que les hommes dominés se soumettent à l'autorité revendiquée chaque fois par les dominateurs. Les questions suivantes se posent alors. Dans quelles conditions se soumettent-ils et pourquoi ? Sur quelle justification interne et sur quels moyens externes cette domination s'appuie-t-elle? Il existe en principe, nous commencerons par là, trois raisons internes qui justifient la domination. Et par conséquent, il existe trois fondements de la légitimité. Tout d'abord, l'autorité de l'éternel hier, c'est-à-dire celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l'habitude enracinée en l'homme de les respecter. Tel est le pouvoir traditionnel que le patriarche ou le seigneur terrien exerçait autrefois. En second lieu, l'autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, le charisme. Elle se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d'un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l'héroïsme ou d'autres particularités exemplaires qui font le chef. C'est là le pouvoir charismatique que le prophète exerçait ou, dans le domaine politique, le chef de guerre élu, le souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d'un parti politique. Il y a enfin l'autorité qui s'impose en vertu de la légalité. En vertu de la croyance en la validité d'un statut légal et d'une compétence positive fondée sur des règles établies rationnellement. En d'autres termes, l'autorité fondée sur l'obéissance qui s'acquitte des obligations conformes au statut établi. C'est là le pouvoir tel que l'exerce le serviteur de l'État moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s'en rapprochent sous ce rapport. L'État, donc, selon Weber, ne peut exister qu'à la condition que les hommes dominés se soumettent à l'autorité revendiquée chaque fois par les dominateurs. La soumission est donc la clé de l'existence de l'État. Alors qu'en est-il de sociétés où les membres ne se soumettent pas ? Pierre Clastres, né en 1934 et mort accidentellement en 1977 d'un accident de voiture, est un ethnologue et anthropologue français. Membre du laboratoire d'anthropologie sociale de Lévi-Strauss, il est considéré comme libertaire, voire anarchiste, ou anarchiste, voire libertaire. Pierre Clastres a travaillé sur les sociétés dites primitives d'Amérique du Sud. Un ensemble d'articles recouvrant ses travaux paraît en 1974 sous le titre « La société contre l'État ». Et dans l'ouvrage, le dernier chapitre, qui est le seul inédit, puisque le reste est un ensemble de travaux déjà édités dans des revues, et donc le dernier chapitre s'intitule lui aussi « La société contre l'État ». Il commence comme ça. Les sociétés primitives sont des sociétés sans État. Ce jugement de fait, en lui-même exact, dissimule en vérité une opinion. Un jugement de valeur qui grève dès lors la possibilité de constituer une anthropologie politique comme science rigoureuse. Ce qui, en fait, est énoncé, c'est que les sociétés primitives sont privées de quelque chose, l'État, qui leur est, comme à toute autre société, la nôtre par exemple, nécessaire. Ces sociétés sont donc incomplètes. Elles ne sont pas tout à fait de vraies sociétés. Elles ne sont pas policées. Elles subsistent dans l'expérience peut-être douloureuse d'un manque, manque de l'État, qu'elle tenterait, toujours en vain, de combler. Plus ou moins confusément, c'est bien cela que disent les chroniques des voyageurs ou les travaux des chercheurs. On ne peut pas penser la société sans l'État. L'État est le destin de toute société. On décèle en cette démarche un ancrage ethnocentrique d'autant plus solide qu'il est le plus souvent inconscient. La référence immédiate, spontanée, c'est, sinon le mieux connu, en tout cas le plus familier. Chacun de nous porte, en effet en soi, intériorisé, comme la foi du croyant, cette certitude que la société est pour l'État. Comment, dès lors, concevoir l'existence même des sociétés primitives, sinon comme des sortes de laissés-pour-compte de l'histoire universelle, des survivances anachroniques d'un stade lointain, partout ailleurs depuis longtemps dépassé. On reconnaît ici l'autre visage de l'ethnocentrisme, la conviction complémentaire que l'histoire est à sens unique, que toute société est condamnée à s'engager en cette histoire et à en parcourir les étapes qui, de la sauvagerie, conduisent à la civilisation. Tous les peuples policés ont été sauvages, écrit un certain Rénal. Mais le constat d'une évolution évidente ne fonde nullement une doctrine qui, nouant arbitrairement l'état de civilisation à la civilisation de l'État, désigne ce dernier comme terme nécessaire assigné à toute société. On peut alors se demander ce qui a retenu sur place les derniers peuples encore sauvages. Cette notion, donc, évolutionniste, nous rappelle justement l'idée en Occident qu'on passe d'un État à un autre et qu'il y a donc un progrès, nécessairement un progrès, en passant de cet état de sauvagerie à cet état de civilisation. Mais ceci est un petit peu déterministe quand même. Alors, la question que posait Pierre Clastres, mais qu'est-ce qui a retenu sur place les derniers peuples encore sauvages ? Eh bien, pour lui, on peut déjà essayer de donner un semblant de réponse en s'interrogeant sur l'économie. Je le cite à nouveau. Le bon site alors questionne. Pourquoi les hommes de ces sociétés voudraient-ils travailler et produire davantage alors que 3 ou 4 heures quotidiennes d'activité paisible suffisent à assurer les besoins du groupe ? À quoi cela servirait-il ? À quoi serviraient les surplus ainsi accumulés ? Qu'en serait la destination ? C'est toujours par force que les hommes travaillent au-delà de leurs besoins. Et précisément, cette force-là est absente du monde primitif. L'absence de cette force externe définit même la nature des sociétés primitives. On peut désormais admettre, pour qualifier l'organisation économique de ces sociétés, l'expression d'économie de subsistance. Dès lors que l'on entend par là, non point la nécessité d'un défaut, d'une incapacité inhérent à ce type de société et à leur technologie, mais au contraire, le refus d'un excès inutile, la volonté d'accorder l'activité productrice à la satisfaction des besoins. Et rien de plus. D'autant que, pour cerner les choses de plus près, il y a effectivement production de surplus dans les sociétés primitives. La quantité de plantes cultivées produites, manioc, maïs, tabac, coton, etc., dépasse toujours ce qui est nécessaire à la consommation du groupe. Ce supplément de production étant, bien entendu, inclus dans le temps de travail normal. Ce surplus-là, obtenu sans surtravail, est consommé. Consumé à des fins proprement politiques, lors des fêtes, invitations, visites d'étrangers, etc. Aussi, pour Pierre Clastre, la question économique nous ramène à la société d'abondance, qu'il reprend là. L'idée de Marshall Salins, qui avait écrit un livre qui justement s'intitulait « Société d'abondance » quelques années auparavant. Et donc pour lui, eh bien, ce n'est pas forcément le côté économique qui va générer cette fameuse société. Je continue dans le livre « La société contre l'État », toujours dans ce dernier chapitre. Pour l'homme des sociétés primitives, l'activité de production est exactement mesurée, délimitée par les besoins à satisfaire, étant entendu qu'il s'agit essentiellement des besoins énergétiques. La production est rabattue sur la constitution du stock d'énergie dépensé. En d'autres termes, c'est la vie comme nature qui, à la production près des biens consommés socialement, à l'occasion des fêtes, fonde et détermine la quantité de temps consacré à la reproduire. C'est dire qu'une fois assurée la satisfaction globale des besoins énergétiques, rien ne saurait inciter la société primitive à désirer produire plus. C'est-à-dire à aliéner son temps en un travail sans destination, alors que ce temps est disponible pour l'oisiveté, le jeu, la guerre, ou la fête. À quelles conditions peut se transformer ce rapport de l'homme primitif à l'activité de production? À quelles conditions cette activité s'assigne-t-elle à un but autre que la satisfaction des besoins énergétiques? C'est là poser la question de l'origine du travail comme travail aliéné. Passage du travail nécessaire au travail aliéné. Comment cela est-il possible? Et c'est, d'après Pierre Clastre, la question essentielle quand on essaye de lier l'économie et l'État. L'économie, finalement, et le politique. Alors, eh bien, il continue sur le sujet en nous indiquant « Pour quand une société donnée, le régime de la production se transforme dans le sens d'une plus grande intensité de travail en vue d'une production de biens accrue, il faut ou bien que les hommes de cette société désirent cette transformation de leur genre de vie traditionnel, ou bien, ne la désirant pas, qu'ils s'y voient contraints par une violence extérieure. Dans le second cas, rien n'advient de la société elle-même, qui subit l'agression d'une force externe au bénéfice de qui va se modifier le régime de production. Travailler et produire plus pour satisfaire les besoins des maîtres nouveaux du pouvoir. L'oppression politique détermine, appelle, permet l'exploitation. Mais l'évocation d'un tel scénario ne sert à rien, puisqu'elle pose une origine extérieure, contingente, immédiate de la violence étatique, et non point la lente réalisation des conditions internes, socio-économiques de son apparition. L'État, dit-on, est l'instrument qui permet à la classe dominante d'exercer sa domination violente sur les classes dominées. Soit, pour qu'il y ait apparition d'État, il faut donc qu'il y ait auparavant division de la société en classes sociales antagonistes, liées entre elles par des relations d'exploitation. Donc la structure de la société, la division en classes, devrait précéder l'émergence de la machine étatique. Observons au passage la fragilité de cette conception purement instrumentale de l'État. Si la société est organisée par des oppresseurs capables d'exploiter les opprimés, c'est que cette capacité d'imposer l'aliénation repose sur l'usage d'une force, c'est-à-dire sur ce qui fait la substance même de l'État, monopole de la violence physique légitime. Donc là, il reprend Weber. À quelle nécessité répondrait dès lors l'existence d'un État, puisque son essence, la violence, est immanente à la division de la société ? puisqu'il est en ce sens donné d'avance dans l'oppression qu'exerce un groupe social sur les autres. Il ne serait que l'inutile organe d'une fonction remplie avant et ailleurs. Articuler donc l'apparition de la machine étatique à la transformation de la structure sociale conduit seulement à reculer le problème de cette apparition. Car il faut alors se demander pourquoi se produit au sein d'une société primitive, c'est-à-dire d'une société non divisée, la nouvelle répartition des hommes en dominants et dominés. Quel est le moteur de cette transformation majeure qui culminerait dans l'installation de l'État ? Son émergence sanctionnerait la légitimité d'une propriété privée préalablement apparue. L'État serait le représentant et le protecteur des propriétaires. Fort bien, mais pourquoi y aurait-il apparition de la propriété privée en un type de société qui ignore, parce qu'il la refuse, la propriété ? Pourquoi quelques-uns désireraient-ils proclamer un jour « ceci est à moi » et comment les autres laisseraient-ils ainsi s'établir le germe de ce que la société primitive ignore, l'autorité, l'oppression, l'État. Donc reprise de la définition de Weber, et pourtant la société non étatique, quand bien même elle existe, eh bien, elle a un chef, le chef de tribu. Donc, normalement, la logique deviendrait, grâce à l'évolutionnisme anthropologique, eh bien, que ce chef deviendrait un chef d'État. Est-ce qu'il y a une obligation à ce que ça se fasse pour Pierre Clastres? En aucun cas. Pierre Clastres note cependant l'exception de la guerre qui amène le chef à faire preuve d'autorité. Et une autorité elle-même consentie par la tribu qui est d'accord pour la faire, la guerre. Mais ce n'est pas une guerre au profit du chef, mais une guerre au profit de la société qui accepte, au profit de la tribu, qui accepte donc d'aller s'emporter contre ses voisins. Et une fois que la victoire est remportée, eh bien le chef redevient un simple chef, car la norme sociale prévaut. Cette norme sociale qui veut que le chef n'ait pas forcément de pouvoir, mais qu'il soit là simplement pour organiser un certain nombre de choses au profit de la société. Pour Pierre Clastres, un domaine pourrait modifier l'organisation sociale. Il nous parle là de la démographie. À son sens, c'est un point important. Sans songer à substituer un déterminisme économique, un déterminisme démographique, à inscrire dans les causes la croissance démographique, la nécessité des effets, en l'occurrence transformation de l'organisation sociale, force est pourtant de constater, surtout en Amérique, le poids sociologique du nombre de la population. La capacité que possède l'augmentation des densités d'ébranler, nous ne disons pas détruire, mais d'ébranler la société primitive. Il est très probable en effet qu'une condition fondamentale d'existence de la société primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou, en d'autres termes, pour qu'une société soit primitive, il faut qu'elle soit petite. Petite par le nombre. Et de fait, que l'on constate dans le monde des sauvages, il a mis un S majuscule, c'est un extraordinaire morcellement des nations, tribus, sociétés en groupes locaux qui veillent soigneusement à conserver leur autonomie au sein de l'ensemble dont ils font partie, quitte à conclure des alliances provisoires avec les voisins compatriotes. Si les circonstances guerrières en particulier l'exigent, cette atomisation de l'univers tribal est certainement un moyen efficace d'empêcher la constitution d'ensembles sociopolitiques intégrant les groupes locaux et au-delà, un moyen d'interdire l'émergence de l'État qui, en son essence, est unificateur. On retrouve là des idées que l'on peut lire dans le livre de Ernst Schumacher, Small is Beautiful, qui est sous-titré sous-titré en anglais, une étude de l'économie comme si les gens importaient. On retrouve également l'idée du communalisme de Murray Bookchin. De fait, pour conserver son autonomie, voire plus, le plus de liberté possible, l'humain devrait créer des structures à taille humaine. La trop grande taille impliquant une administration autonome, la perte de vie de finalité et, à terme, un État pour générer l'ensemble. Pour nous, déresponsabiliser, puisque finalement, nous serions devenus incapables, par la taille de la société, d'appréhender les enjeux des structures créées. L'État devient alors notre faiblesse, pour reprendre le mot de Bernard Charbonneau dans L'État, un ouvrage qui date de 1948. Bernard Charbonneau, à qui je cède la parole pour vous dire. L'État est notre faiblesse, non notre gloire. Voilà la seule vérité politique. Toute société où l'individu se dégage de la totalité primitive suppose un gouvernement, des lois et même une police, sans lesquelles elles sombreraient dans un chaos plus écrasant que leurs contraintes. Mais l'organisation politique contient les germes du désordre auquel elle semble remédier. Au-delà d'un certain point, elle devient plus oppressive que le trouble dont elle prétend libérer. Il est impossible de supprimer l'État, mais il est non moins nécessaire de le réduire au minimum. Le plus sûr moyen d'y arriver, c'est de le connaître, d'être à la fois conscient de la raison qu'il impose et de la détermination qu'il fait peser. Nul ne peut mesurer la vérité de l'anarchie s'il n'a mesuré la nécessité de l'État. Et seul l'esprit d'anarchie peut fonder un bon usage de l'État. Je vous laisse avec ça. On va se quitter en vous rappelant que c'est la dernière. Ouais, je sais, trop triste. Mais bon, on se retrouvera normalement en septembre, si c'est pas la fin du monde. Et donc, je vous rappelle qu'il y a plein de choses à faire cet été. Alors, renseignez-vous, allez voir s'il y a pas des gens qui ont besoin, ou s'il y a pas des gens qui s'organisent, ou s'il y a pas des gens qui... En tout cas, souvenons-nous que l'autonomie, c'est tellement important qu'on ne devrait jamais oublier de la cultiver. En attendant de se revoir, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.